C'est-à-dire, c'est que je veux faire avec ma petite fille Agnès, c'est le premier essai d'un enregistrement sur cassette. C'est pas du tout sûr que nous allons bien réussir, nous le verrons bien. Et nous allons parler de quoi? Tiens, le voyage à Bohain, ça va beaucoup l'intéresser, elle ne connaît pas Bohain. Oh, elle ne connaît pas Bohain, elle connaît bien ce pays-là, de réputation, parce que c'est le pays de nos ancêtres. Mon arrière-grand-père François Alloux est arrivé là, tout est début du 19e siècle, et il avait des cousins qui s'appelaient Hennequin, et qui ont monté très vite un tissage de grands châles dits des Indes à Bohain, et c'est mon arrière-grand-père qui en a pris la direction. Et c'est mon grand-père Ernest Alliot qui lui a succédé. On a fait de très jolis châles. Et puis la guerre de 1866 aux États-Unis a interrompu la vente des tapis là-bas. La guerre de 70 a interrompu la vente en France parce que ces tapis avaient ces châles avait été mis à la mode par l'impératrice Eugénie, et qu'à partir de la défaite de 1870, la mode a complètement supprimé tout ce qui avait fait la beauté sous le Troisième Empire. Donc, très rapidement, le tissage de Bohain s'est arrêté. Il y a d'ailleurs eu des difficultés financières avec un accident, un arrêt aussi brutal. Et mon grand-père et ma grand-mère ont continué à vivre à Bohain dans le respect unanime, mais avec des moyens limités au point de vue pécunier. Il restait cependant encore les restes du château de Fontaine Notre-Dame, les terres qui y étaient attachées, et pendant un certain temps, ma grand-mère a pu encaisser des loyers qui nous ont permis de vivre d'une façon très normale, très convenable, et même d'aider les gens du voisinage. Et à cette époque-là, je parle des années 1896, 1900, on n'avait pas encore pris l'habitude d'institutions qui venaient aider les plus défavorisés. Et alors, les personnes de Bohain, qui avaient quelques moyens, donnaient du pain aux plus malheureux un jour déterminé de la semaine, c'est-à-dire que c'était chacun son tour. Et je me rappelle que quand enfant, j'allais à Bohain chez ma grand-mère, il y avait un jour où on voyait réunis devant la porte d'entrée un certain nombre de personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens, et on leur distribuait des grands pains qui étaient fort appréciés par eux. Ma grand-mère était d'ailleurs très bonne, assez généreuse, suivant ses moyens. Et de cette époque-là, alors quittons ce chapitre d'aide, je me rappelle les moments où ma grand-mère m'emmenait dans son grand jardin du chêne brûlé, qui était à un peu plus d'un kilomètre et demi de chez elle. Il y avait là-bas un grand pré, il y avait une vache au milieu du pré, ça m'intéressait beaucoup les enfants. Et puis tout autour, il y avait des petits boqueteaux. Ah, les petits boqueteaux avaient été plantés par mon grand-père, parce que c'était là qu'il espérait pouvoir faire du bois de boulange, c'est-à-dire des bois qui rentraient facilement dans les fours de boulanger, qui chauffaient la sole, et après quoi on pouvait faire le pain. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps parce que on a trouvé d'autres moyens de chauffage chez les boulangers, notamment du chauffage électrique, du chauffage à l'aide de pétrole, de fioul, et on a eu besoin de chauffer avec du bois. Est-ce que ça a amélioré la qualité du pain? Il est possible que ça ne soit pas vrai, car ces sols qui étaient chauffés avec du bois de bonne qualité devaient avoir un goût plus agréable que ce qu'on a fait après. Voilà l'histoire du chêne brûlé. Et dernièrement, j'y suis retourné. J'étais étonné de trouver à la place du pré quelques grands arbres, des résineux parce que ça pousse très vite, et tout autour, tous les petits boqueteaux de bois de boulanger avaient disparu et avaient fait place à des arbres qui étaient devenus assez gros. La petite maison où nous nous réfugions, où on restait pour passer l'après-midi avec grand-mère, existait encore. Et on avait construit une maison beaucoup plus grande, car le chêne brûlé est devenu la propriété de la ville de Boin, pour loger un concierge, et il y avait une grande salle que j'ai d'ailleurs vue utiliser quand j'étais président de la Caisse des allocations familiales à Boin, aussitôt après la guerre de 39-40. Dans cette grande salle, nous avons pu donner à goûter à environ 200 enfants d'un seul coup. Et avec la longue table, c'était très amusant de voir tous ces marmots qui n'avaient pas beaucoup à manger à l'époque, car c'était l'époque où il y avait encore des tickets pour avoir du sucre, du pain, de la farine, tout ce que l'on peut imaginer. Je suis retourné dernièrement, tout dernièrement, au chêne brûlé. Il y a des grands arbres. La grande salle est toujours utilisée pour des réunions de mariage, pour des réunions de groupements, de sociétés. Et on peut toujours aussi y prendre des aises, du repos et se mettre à l'abri en cas de mauvais temps. Dans cette petite ville de Boin que je connais bien, j'ai vu beaucoup de choses qui ont été beaucoup modifiées depuis mon enfance. Il y a notamment un centre municipal qui réunit les pompiers avec la grande sirène d'alerte, et puis il y a la gendarmerie qui est à côté, et puis des services municipaux, et puis un foyer pour les vieux. Enfin, tout ça, ce sont beaucoup de progrès qui viennent aider les populations âgées ou infortunées. Et je pense que je peux cesser là mon essai d'enregistrement.